Physique quantique, un bilan mitigé. Alors en effet, la conférence de ce soir va tenter de formuler une synthèse définitive de l'héritage que nous a laissé cette bien ambitieuse théorie quantique. A-t-elle réellement réussi à déchiffrer l'infiniment petit ? Nous a-t-elle donné les clés de l'énigme atomique ? Physique quantique, révolution ou mascarade ?
Vous venez d'entendre un extrait de l'exoconférence d'Alexandre Astier sur la physique quantique. Physique quantique dont on a parlé avec Julien Bobroff, professeur à l'université de Paris-Saclay. Il était au Champ Libre mardi dernier pour une conférence autour de son livre « La nouvelle révolution quantique ». Mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle révolution quantique ?
Alors c'est la deuxième révolution en fait, la quantique c'est un vieux truc, hein, ça a plus de 100 ans. Il y a eu une première révolution dans les années 50-60 et en fait qu'on a tous autour de nous sans s'en rendre compte, c'est l'invention du transistor, l'invention du laser, l'invention de la LED, donc en gros de toute l'électronique moderne. Toute l'électronique moderne contient des inventions de la quantique. Et là en ce moment on est en train de vivre une deuxième révolution, il se passe un truc assez singulier, c'est que soudain les physiciens sont capables en labo de manipuler un atome, un grain de lumière, un électron individuel. Donc ils sont capables de le manipuler avec des lasers, avec des champs électriques. Et ça, ça leur permet d'inventer des technologies complètement nouvelles. Donc un petit peu comme dans le transistor ou le laser dans les années 50, on invente de nouvelles façons d'utiliser la quantique pour développer des technologies.
Une question qui va probablement vous paraître simple et peut-être un peu évidente, mais je pense que ce n'est pas évident pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est que la physique quantique ? On a tous l'image du chat Schrödinger en tête. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, en une ou deux minutes, ce que c'est ?
Oui, bien sûr. Alors la physique quantique, c'est les lois du monde à toute petite échelle. Donc si on se met à l'échelle d'un atome et qu'on regarde un atome, on va se rendre compte qu'il ne se comporte pas comme les objets dont on a l'habitude. Il a des comportements très étranges. Alors par exemple, si on prend un électron et qu'on le laisse un peu tranquille, il va soudain occuper toute une zone de l'espace, un peu comme un nuage. Et puis quand on va essayer de le mesurer, hop, il va se réduire très soudainement en un seul point. Ça, c'est un premier truc bizarre. Puis deuxième truc bizarre, cet objet-là, on va être capable de le mettre à deux endroits à la fois, ou dans deux états à la fois, un truc qui est impossible évidemment à notre échelle. Et puis on peut accumuler comme ça plein d'effets de phénomènes bizarres. Et donc la quantique, elle permet de décrire ces phénomènes, de les prévoir, de les comprendre, et ça n'a lieu en général qu'à toute petite échelle.
Quelles applications concrètes, ou en tout cas, qu'est-ce que nous, ça nous changerait dans nos vies à nous en général ?
Alors pour l'instant, pas grand-chose, hein, je vais être super honnête. Alors si quand même, en fait, elle a déjà un peu lieu. Alors exemple d'un truc qui est là dans nos vies déjà, quand on se balade et qu'on regarde sur son smartphone, un, l'heure qu'il est, et deux, qu'on veut se repérer sur une carte. D'accord ? Alors que fait le smartphone dans ces cas-là ? Pour repérer l'heure qu'il est, lui, il se synchronise sur l'horloge mondiale. En gros, et cette horloge-là, elle trouve son temps grâce à des horloges quantiques. Des horloges qui utilisent les atomes et qui les manipulent d'une certaine manière, justement, un par un, pour obtenir l'heure la plus précise possible. Donc l'heure du monde, actuellement, elle est liée à la quantique. Et puis quand on essaie de repérer où on est avec son GPS, le GPS, il interroge en fait des satellites qui sont dans l'espace. Et dans ces satellites, là aussi, il y a des horloges quantiques où des atomes individuels sont irradiés par des ondes et permettent de connaître l'heure hyper précisément et donc de savoir très précisément en fait où sont les satellites et combien de temps ils ont mis pour nous contacter et donc de savoir finalement où on se trouve sur Terre. Donc ça, c'est des trucs qui existent déjà. Mais évidemment, cette révolution, elle est en cours. C'est ça que je raconte dans mon bouquin. Et elle offre plein d'espoir de technologies à venir. Alors si on y va, hein, il y a en gros quatre piliers. Il y en a un, c'est les capteurs. Alors ça n'a pas l'air hyper glamour quand je dis ça comme ça. C'est juste mieux mesurer, mais vraiment mieux mesurer. Alors exemple, un interféromètre quantique qu'on a mis en haut de l'Etna pour mesurer avec une sensibilité diabolique la gravité. Alors pourquoi est-ce qu'on mesure la gravité en haut d'un volcan ? C'est parce que ça permet d'anticiper s'il va se passer quelque chose. Parce que si soudain il y a du magma qui passe sous nos pieds, ben ça va changer la gravité. Donc les capteurs, ça peut être vraiment utile à plein d'applications. Deuxième exemple d'utilisation de la quantique, les télécoms. Alors là, ça ne va pas beaucoup changer nos smartphones ou notre Internet. Ça peut quand même offrir des solutions pour crypter, pour coder les messages de façon absolument inviolable. On parle d'intrication quantique, on parle de cryptographie quantique. Et donc là, l'idée, c'est qu'on ne va pas changer la façon qu'on a de communiquer, mais plutôt la façon qu'on a de chiffrer, voilà, de protéger des espions extérieurs. Et là, la quantique, et justement cette révolution quantique, offre cet espoir-là. Et puis, troisième domaine, celui qui fait peut-être le plus fantasmer, c'est l'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique, c'est une espèce de machine qui, là aussi, va manipuler des atomes ou des grains de lumière ou des électrons, mais un par un, hein, comme d'habitude, les mettre dans plusieurs états à la fois, les intriquer entre eux. Et avec cette espèce de soupe d'états, de soupe de 0 et de 1, il va être capable de faire des calculs bien mieux que n'importe quel ordinateur actuel. Alors seulement certains calculs, hein, pas tous les calculs, ça ne va pas remplacer nos ordinateurs, mais pour certains calculs particuliers et très importants, il va aller vraiment plus vite. Mais surtout, ce qu'il va être capable de faire, et ça c'est le quatrième pilier, c'est la simulation. En gros, un ordinateur quantique, c'est hyper bien câblé pour simuler la quantique. Alors, c'est un peu naze hein, comme application, parce que c'est les physiciens de la quantique qui se font plaisir, en gros. Mais en fait, ça peut avoir des répercussions énormes. Alors, je vous donne un exemple très concret. Si on est capable de simuler les réactions chimiques et de voir comment les améliorer, eh ben, par exemple, on pourrait essayer d'améliorer la réaction qui permet de capter le CO2. Actuellement, on essaie de capter le CO2 pour pas que ça fasse du réchauffement. Hein, et le réchauffement climatique dépend de ça et on le capte très mal. On essaie de le transformer en méthanol, mais c'est une réaction qui marche très mal. Si on avait un ordinateur quantique qui marche bien, il pourrait peut-être nous permettre d'améliorer cette réaction. Et alors là, ça aurait un impact sur l'humanité énorme. Autre exemple, pour transformer l'azote en ammoniac. On sait très mal faire ça. Si on savait bien faire ça, on gagne tout de suite 2 à 3% de la facture énergétique mondiale qui est utilisée pour faire ça, pour fabriquer les engrais. Donc si on était capable de mieux comprendre la nature, en gros, de mieux comprendre les réactions chimiques, les matériaux, avec cette étrange machine, alors là on serait les rois du monde.
Mais dans le monde naturel, ça fait longtemps que la quantique existe et il y a plein d'exemples d'animaux ou d'espèces qui peuvent l'utiliser. Est-ce que vous pourriez me donner quelques exemples ?
Alors en fait, il y en a très peu, hein, quand même, il faut être honnête. Alors peut-être parce qu'on ne les connaît pas, et c'est un sujet en débat. On pense que dans certains phénomènes naturels, effectivement, dans le monde biologique, dans le monde végétal, dans le monde animal, il y aurait de la quantique. Alors ça ne veut pas dire qu'on va avoir un chat de Schrödinger, hein, vous en parliez tout à l'heure. On n'aura pas un chat à deux endroits à la fois, et on n'aura jamais un objet vivant à notre échelle qui peut être, par exemple, à deux endroits à la fois ou intriqué. Ça, c'est impossible pour plein de raisons physiques. Par contre, ce qui peut se passer, c'est dans un animal, il peut y avoir un processus chimique qui a lieu à un endroit, qui l'aide à faire un truc ou un autre, et qui lui peut être quantique. Alors un exemple, par exemple, c'est le rouge-gorge. Il y a une race de rouge-gorge dont on soupçonne que leur façon de revenir quand ils vont migrer en Afrique et qu'ils vont revenir en Europe et de trouver, en gros, où revenir, c'est d'utiliser le champ magnétique de la Terre comme une boussole et de faire ça grâce à une réaction chimique qu'ils ont dans le bec et qui, elle, utiliserait l'intrication quantique. Donc il y aurait peut-être de l'intrication quantique à l'origine de la façon qu'a le rouge-gorge de s'orienter. Donc voilà, dans certaines réactions chimiques, dans certains processus, y compris dans la façon qu'a une molécule de s'accrocher, on peut avoir de la physique quantique pure et dure qui va gouverner le phénomène. Ça ne veut pas dire que le rouge-gorge à grande échelle est quantique.
On va revenir un peu à la quantique pour nous. Derrière tous les enjeux scientifiques dont on a parlé, il y en a un autre. C'est un enjeu géopolitique. Emmanuel Macron avait annoncé en janvier 2021 le lancement d'une stratégie quantique nationale et l'investissement d'1,8 milliard d'euros. Qu'est-ce que ce plan a donné pour l'instant ? Déjà, qu'est-ce qu'il vaut ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et qu'est-ce que ça donne un an et demi après presque ?
Alors, si on prend un petit peu de recul, on est sur un enjeu clairement stratégique. Alors pourquoi c'est un enjeu géostratégique ? On pourrait se demander, est-ce que c'est juste des effets d'annonce ? Alors c'est un enjeu important parce que si par hasard l'ordinateur quantique débouche, ça va bouleverser un certain nombre de pans de l'industrie. Et puis il y a aussi des enjeux militaires derrière, il ne faut quand même pas se le cacher. Ça pourrait, la quantique, on voit que ça peut fabriquer des très bons radars avec des techniques de photons intriquées. Les codes secrets, ben, c'est évidemment un enjeu énorme. Les Chinois sont très à la pointe d'ailleurs sur ce sujet-là. Donc il y a un certain nombre d'applications qui pourraient servir aux militaires. Donc il y a un vrai enjeu stratégique, également géopolitique à ce niveau-là. Alors le plan Macron, ben, Emmanuel Macron, il y a un an et demi à peu près, dit qu'il met 1,8 milliard sur la table. Alors d'abord, ce n'est pas 1,8 milliard, c'est plutôt 1 milliard, le reste étant donné par le privé. Et puis en fait, dans ce 1 milliard, il y a une partie qui est aussi donnée par l'Europe, donc voilà, on est peut-être à 600 millions. C'est déjà bien. Je veux dire, on ne va quand même pas cracher dans la soupe. Et ce que je trouve bien avec ce plan, c'est que c'est un plan qui a dit on ne va pas juste financer les applications, on va financer depuis le laboratoire de physique fondamentale jusqu'à la start-up et à l'industrie. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a si souvent, de financer à la fois la recherche fondamentale et la recherche privée et de dire bah, vous devez tous bosser ensemble. Donc il y a quelque chose, moi, je trouve d'assez original et unique dans cette révolution qu'on n'avait pas forcément dans les bulles précédentes. Moi, je pense à l'intelligence artificielle, au graphène, aux supraconducteurs. Est-ce que c'est assez ? Bah d'abord, il faut le cumuler avec toutes les autres sommes qu'on peut retirer d'autres types de financement. Je crois que de toute façon, la bonne échelle, c'est l'Europe, c'est pas la France. Et donc, est-ce que l'Europe investit assez par rapport aux États-Unis et à la Chine, qui sont les deux autres gros bulldozers dans l'histoire ? Elle n'a pas à rougir. Elle met notamment l'Allemagne, la Hollande, la France, l'Angleterre. Elle met vraiment des billes pour s'investir dans cette révolution-là. Est-ce qu'elle met assez ? À mon avis, l'enjeu, c'est pas que l'argent. C'est la façon qu'on a de le dépenser. En France, moi, ce que je reprocherais, ce n'est pas forcément la somme qu'on met, mais c'est la lourdeur administrative. C'est qu'entre le moment où ce plan a été annoncé il y a un an et demi et maintenant, l'argent n'est toujours pas vraiment directement arrivé dans les labos. Il commence à peine à arriver à être dépensé. En Allemagne, sur les mêmes genres de sommes, au bout d'un mois et demi, ils ont une carte bleue dans le labo et ils dépensent. En France, on met beaucoup de temps, on va passer par les institutions, le CNRS, le CEA, faire des commissions, faire des appels à projets, remplir des trucs, faire un jury, etc. Donc on va tout faire très bien, très démocratiquement et de façon collégiale. Le problème, c'est que ça prend du temps. Et là, on est sur une compétition féroce au niveau international où il ne faut pas perdre de temps. Donc pour moi, l'enjeu, il est peut-être là. Essayer d'être plus efficace dans la façon d'utiliser l'argent et que ce n'est pas seulement une question d'investissement.
On voit que vous maîtrisez bien votre sujet et que vous aimez le vulgariser, justement. Vous avez aussi une chaîne YouTube et peut-être d'autres médias que vous utilisez. Vous pouvez nous les présenter rapidement. Peut-être.
Ah ouais, on est partout là. On s'est lancé dans TikTok il y a 6 mois à peu près. On est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur LinkedIn, on est un peu partout. Pour moi, ça fait partie de cette démarche qu'on a dans mon équipe. On essaye de tester des nouvelles façons de vulgariser. Donc on s'est beaucoup posé de questions, par exemple sur TikTok. Est-ce qu'on y allait ou pas? C'est pas un truc qu'on aime forcément, devoir faire un truc en 30 secondes, une minute, encadré par d'autres clips qui sont pas forcément hyper glorieux, on n'a pas le temps de développer la pensée, ça n'a rien à voir avec une conférence pendant une heure sur scène. Mais on s'est dit qu'après tout, s'il fallait chercher des nouveaux publics, des publics jeunes, des publics différents qui sont pas nos publics habituels, il fallait y aller, quoi. Donc on a fait le job, on a été voir ce qui se passait, on a cherché, on a nous-mêmes essayé de construire un peu une façon de le faire. On s'est lancé il y a 6 mois et ça marche bien et on est ravis. C'est-à-dire que moi, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. On fait 2-3 vidéos par semaine, on a 150 000 abonnés, il y en a qui sont très vus, d'autres très peu vus, ça change. Sur Instagram, c'est à peu près pareil. Mais moi, ce que j'ai trouvé remarquable, c'est que finalement, eh ben, les gens, c'est pas que les crétins qu'on dit. Les commentaires qu'on a, d'abord, ils sont assez bienveillants. Et puis les gens, ils y vont, quoi. Ils parlent de physique, ils se posent des questions. Là, j'en ai fait une avant-hier ou il y a 2-3 jours qui fait 1 million de vues sur... une boîte un peu étrange où on arrive à assembler des bouts de verre et il colle tout seul. Voilà, une espèce de truc quand même obscur. Ça fait 1 million de vues, moi ça me sidère. Et puis les gens ils posent plein de questions. Comment ça tient? Combien ça coûte? Pourquoi ça marche? Est-ce que ça casse? Etc. etc. Donc moi je trouve qu'il y a une vraie curiosité, une vraie appétence des gens. Mais il faut aller un petit peu sur leur terrain de jeu. Donc voilà, donc on est sur ces médias-là, on est aussi sur Instagram et on explore et on aime bien tester plein de médias, YouTube également évidemment, et tester aussi plein de formats et plein de façons de parler de physique différentes. Donc moi je vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux et puis aussi aller peut-être sur notre site web, c'est un peu à l'ancienne, hein. On a un site qui s'appelle vulgarisation.fr, donc c'est facile de se souvenir. Et sur ce site, vous allez voir justement tous les projets un peu bizarres qu'on fait. Là, le dernier en date, c'est comment enseigner la physique dans la fiction. On plonge nos étudiants dans des fictions face à des extraterrestres, face à des espions, face à la Corée du Nord, et ils doivent inventer des nouvelles expériences. Et donc on apprend aux profs à faire ça. Ou encore, on a une machine complètement étrange qui s'appelle la machine obéissante qu'on a fabriquée avec un designer qui répond en direct, en quelque sorte, à la foule. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir des projets un peu bizarres et étranges, n'hésitez pas à aller voir ce qu'on fait.
C'était Julien Bobroff, physicien de l'Université de Paris-Saclay, au micro de Garonne, autour de la physique quantique. On vous rappelle que toutes les conférences de l'Espace des sciences sont accessibles en replay sur leur site www.espace-sciences.org.